Caluquet, orgueilleux.
Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info du lundi 25 mars 2013, avec ce soir une équipe complète dans les studios, Michel, Robert et Jean-Pierre, pour animer pendant une heure l'actualité internationale, nationale et locale. Internationale, sur quoi faut-il ouvrir ce soir ?
Je dirais sur l'inutilité du voyage d'Obama au Moyen-Orient. C'est un peu comme ça que je le ressens. Mais, enfin, inutilité pour la paix, hein, mais peut-être pas pour ses amis israéliens, sans doute.
Pas pour les Turcs non plus, puisqu'il a entrepris de les réconcilier avec les Turcs. Tu as entendu ce passage où, oui, paraît-il, il aurait passé son téléphone à Netanyahou pour qu'il discute avec le premier ministre turc et qu'il s'excuse de son exaction militaire d'il y a un an.
Oui, enfin, c'est plus...
La si com'. Dire.
Comment ?
De la com', non ?
C'est de la com' et c'est plus officialisé, donc... Un retour de l'entente israélo-turque, à savoir c'est plus en l'occurrence Israël qui a besoin de renouer avec la Turquie que l'inverse. Pour des raisons bassement pratiques militaires, c'est-à-dire que l'État turc permettait à notamment à la chasse israélienne, oui, de s'exercer dans son espace aérien. Rappelons juste qu'Israël c'est tout petit et les manœuvres aériennes israéliennes.
Ils n'arrivaient pas à prendre le virage à temps.
C'est un peu ça. Donc
il y a même eu un marché d'armes entre les deux pays, je crois. Non,
bien entendu, mais c'est plus effectivement le retour de nouveau de la Turquie comme polygone aérien pour l'armée de l'air israélienne.
Bon, effectivement, à propos de la Turquie, Netanyahou et Erdogan en ont profité pour solder l'affaire effectivement de la frégate qui avait été canardée avec une dizaine de morts turcs au large de Gaza. Hein. Donc ils prétendent qu'ils l'ont, que c'est de l'histoire ancienne maintenant.
Mm-hmm. Surtout pour ceux qui sont morts dans le canardage.
Du coup, on peut peut-être, attaquer sur la Syrie. Alors,
Du coup, pour finir justement,
oui, sur Obama.
Déjà, c'est 3 jours, puisque tu parlais de com. L'exercice, oui, était purement de la com. Hein, déjà, mon ami Netanyahou, alors qu'on sait qu'il y a une antipathie mutuelle qui est avérée, mais il fallait donc aux yeux de son électorat et notamment de son électorat juif aux États-Unis qu'il renoue officiellement avec l'État d'Israël. Dans le même temps, Netanyahou lui a fait un peu du rentre-dedans en le pressant sur la question iranienne, à savoir on ne peut pas en l'État laisser l'Iran continuer son programme donc de nucléarisation, hein, donc. Et donc à presser donc de mettre une date butoir, une ligne rouge donc sur le programme iranien, chose que qu'Obama donc a quand même su dévier quoi comme sujet et revenir un peu sur le terrain sans pour autant qu'il y ait rien de concret, mais revenir sur le terrain de la pseudo-paix qui doit avoir le jour entre Israéliens et Palestiniens. Mais concrètement, il n'y a absolument rien, quoi. Il n'y a aucune espèce de pression qui a été faite sur les Israéliens. On n'a surtout pas évoqué la colonisation, la poursuite effectivement de la construction dans les territoires occupés et surtout pas parler de sanctions à ce niveau-là. On a renforcé donc les liens concernant le contre-terrorisme, à savoir l'échange d'informations entre non seulement les États-Unis et Israël, mais entre l'OTAN et Israël. Donc Israël est quasiment un État membre de l'OTAN sans pour autant en avoir
les contraintes.
Voilà.
Ouais. Il est passé par la Jordanie aussi. Hein. Là, il a sorti son carnet de chèques, paraît-il, et il aurait laissé 200 millions d'euros pour l'accueil des réfugiés syriens en Jordanie.
Oui, alors, sa crainte, pareil, il a laissé son chèque de 200 millions d'euros. C'est toujours une politique d'endiguement de la poussée islamiste dans la région et la défense finalement des intérêts d'Israël, car avant tout on veut maintenir coûte que coûte cette monarchie hachémite en Jordanie, alors que elle est là aussi à bout de souffle hein, donc il faut lâcher un peu, il faut lâcher pour soutenir, comme tu l'as dit, les camps de réfugiés syriens, mais aussi aux yeux de lâcher un peu du lest à la population jordanienne pour qu'elle reste calme, quoi.
Rien sur les prisonniers palestiniens en Israël.
Absolument rien.
Aucun geste même minime pour inciter à faire symboliquement, mais rien.
Non, il y a juste, on a appris aujourd'hui que Israël a repris donc de reverser les cotisations qu'elle prélevait aux douanes à l'autorité palestinienne, chose qu'elle a d'elle-même hein, il y a 3 mois lors du vote aux Nations Unies décidé de suspendre. Personne n'a fait pression, notamment de la communauté dite internationale, à savoir des Occidentaux, pour qu'elle n'étrangle pas l'autorité palestinienne. On a laissé faire. Enfin, il y a, sur ce dossier-là, il y a vraiment une volonté occidentale de faire de la com, comme on l'a dit. Donc, on fait quelque chose, on se montre. Mais concrètement, hein, sur le terrain, c'est surtout l'avalisation de la politique du fait accompli hein, par les Israéliens qui accourent déjà depuis les accords d'Oslo.
Ouais, cette attitude est d'autant plus déplorable chez Obama qu'on s'était dit, bon, avant sa réélection, il a besoin des voix du lobby juif, donc il est obligé de faire beaucoup de concessions dans son discours. Il est élu largement et il continue avec le même discours. Rien n'a changé et donne toujours même l'impression d'être de plus en plus sincèrement convaincu que il doit tout faire pour que toujours éviter d'avoir à critiquer Israël. Il y a un changement. D'ailleurs, c'était noté par les gens qui sont un peu très au fait du comportement d'Obama depuis le début pratiquement. Mais cette lente évolution qui le fait s'aligner pratiquement sans le même vocabulaire, mais sur le comportement de ses prédécesseurs.
Il n'y a absolument rien qui change. Et puis là aussi, hein, avant tout, c'est l'agenda interne qui prime américain, à savoir, c'est, comme tu dis, son électorat juif, c'est ses coups de pression qu'il faut convaincre plus que des Palestiniens ou des Israéliens dans la région.
Alors évidemment, bon, dire mais non, il fait quand même sur le plan social un petit peu mieux que les républicains. Bon, c'est en partie vrai, mais ça va pas très loin.
On pouvait pas s'entendre à pire.
Et là,
quand
il est coincé. Là, il est même coincé.
Les conservateurs qu'on a eus sous Bush.
Ouais.
Donc c'est la moindre des choses, effectivement, que l'administration Obama, d'un point de vue social, fasse un peu mieux.
Ouais.
Voilà, un autre sujet. Tu es parti sur la Syrie, non?
Oui.
Robert,
Oui, en Syrie. Donc voilà, on va revenir un peu sur ce qu'on disait la semaine dernière, à savoir notre ministre des Affaires étrangères, notre président, qui avait donné son aval pour la livraison d'armes donc à l'armée syrienne libre. Hein. Il fallait aider à tout prix, on ne pouvait pas rester spectateur de ce conflit. Une semaine après la réunion des 27 ministres des Affaires étrangères à Dublin un samedi, là où Français et Britanniques pensaient donc avoir l'assentiment général, finalement, bon, on revient un peu la queue entre les jambes. Hein. Notre ministre des Affaires étrangères, Fabius, dit maintenant qu'il faut temporiser. Hein. Et la raison, on l'avait déjà évoqué la semaine dernière, c'est-à-dire que c'est bien gentil de faire de la com, de dire qu'on va livrer des armes. La réalité, c'est que on ne sait pas à qui les livrer. La réalité du terrain, on l'avait déjà dit, hein, ce sont principalement des groupes djihadistes, donc non grata par les Occidentaux, qui sont les fers de lance donc de l'opposition militaire sur le terrain face à l'armée régulière de Bachar al-Assad. Y en a certains qui évoquait aussi autant les données à nos quelques jeunes de nos banlieues qui ont, d'après les services secrets français, ont fait le voyage pour soutenir aussi l'insurrection face à Bachar al-Assad. Donc autant armer, faire des sections de volontaires comme on l'a fait en son temps pour défendre les républicains en Espagne, les armer directement et les emmener sur le terrain. Enfin, c'est une boutade, je plaisante, mais la réalité, elle est là. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'opposition à Bachar al-Assad est profondément divisée, et ô combien même du jour au lendemain le pouvoir s'effondrerait, ce serait plus qu'une victoire, ce serait une guerre civile assurée auquel on aurait droit.
Ouais, d'ailleurs, c'est la situation à l'intérieur de la coalition s'est aggravée, puisque le président un peu poussé au pouvoir par les Occidentaux, Al-Khatib a démissionné. Il a dit que bon, il a pas vraiment donné. Enfin, moi, j'ai pas lu d'explication sur les raisons de sa démission. Mais dans ce contexte-là, où effectivement les groupes autour du Conseil national syrien étaient pas en position de force dans la lutte.
Il y a d'énormes dissensions, et notamment les dissensions se font jour aussi quand on regarde quels sont les sponsors un peu de cette opposition. Et on a vu que aussitôt donc Hassan Iqto qui a été intronisé en tant que premier ministre, hein, donc de ce gouvernement syrien en exil, et est un frère musulman poussé par le Qatar, mais qui là aussi qui n'a pas l'assentiment de grande pension de l'opposition syrienne. Donc on voit bien les oppositions au sein même de l'opposition sont très très vives. Aujourd'hui, le colonel Riyad Assad, commandant de l'armée syrienne libre, hein, rien à voir avec la famille d'Al-Assad, qui est aussi un haut officier qui a fait défection. Donc hier, il a été blessé suite à une explosion de bombe, mais il n'a pas été blessé par l'armée régulière d'Al-Assad, il a été blessé de toute évidence par une frange djihadiste qui contestait effectivement son commandement dans l'Est syrien. Donc là aussi, on voit concrètement que la division n'est pas seulement politique autour d'une table, elle est aussi sur le terrain entre les oppositions.
Alors, on aimerait bien que l'Union européenne dise on arrête tout, mais on peut rêver.
Au bout de deux ans, c'est fini.
Puis on a juste un observateur là pour le moment. Autre sujet, qu'est-ce qu'on fait ? On part un petit peu en Afrique, ou vous voulez encore évoquer le...
Ouais, on peut parler...
Afrique, ben, y a ce coup d'État en RCA, hein, c'est pas un grand pays, 5 millions d'habitants, une instabilité politique majeure, un président arrivé au pouvoir par un coup d'État il y a 11 ans, comme celui par lequel il vient de se faire virer hier, une opposition dont on ne sait pas exactement, elle est à la fois interne, puisque Bozizé était soutenu par son clan, et il y a d'autres clans dans le pays, Et elle est aussi externe parce que les voisins, peut-être la RDC, peut-être le Tchad, soutenaient, on va dire, en tous les cas, il a bien fallu que ses opposants, on l'a pu l'entendre, le nouveau président autoproclamé, hein, Giolia. Il a dit que c'était tout ça, c'était de la faute à la misère du peuple, et que la misère du peuple avait donc renversé le tyran. Ouais, mais enfin, la misère du peuple, je pense pas que c'est elle qui a financé les canons, les tanks et l'armement, quoi. Donc, il doit quand même y avoir d'autres. Ça ne doit pas être si simple, quoi.
Non, loin de là. Surtout, effectivement, qu'on a renversé l'armée régulière, quand même. Donc, la misère, ouais, peut être pour quelque chose. Surtout que le président François Bozizé, on l'apprend aussi, a été protégé par un contingent de forces sud-africaines. Hein, donc, le président Zuma, donc proche de Bozizé, avait délégué donc un contingent de soldats sud-africains en soutien donc de Bozizé. Donc,
ils en ont perdu 14. Et il semble que ça fait un peu débat en Afrique du Sud.
Tout à fait, ça fait débat. Mais oui, la question, c'est derrière Joto Dia, donc qui finance, quoi, en gros, d'où vient cet argent? Pour l'instant, moi, j'ai pas trop de réponses. En tout cas, ça partait du principe que l'accord de Libreville de janvier de cette année, qui devait mettre en place un gouvernement de coalition, d'après Joto Dia, n'a pas été respecté par le président Bozizé, donc Joto Dia donc s'est autoproclamé président, mais il garde le gouvernement en l'état, hein, le gouvernement dont étaient membres des proches, hein, de Bozizé, plus des gens de l'opposition, mais il se donne quand même 3 ans avant d'organiser des élections transitoires. Donc 3 ans, c'est le temps aussi d'oublier qu'il a pris le pouvoir par la force. Et voilà, l'histoire ne le dit pas. Là aussi, il y a une chose à noter, c'est autant il y a eu des débordements, notamment à Bangui, et comme suite à chaque coup d'État, autant il y a aussi à noter que les intérêts français ont été préservés. Donc peut-être il faut y chercher aussi une source de financement de ce côté-là.
Ouais, il y a 250 militaires français censés être là pour protéger les 1250 citoyens français dans le pays. Je crois qu'on en a renvoyé quelques-uns en plus.
Mais en plus, on est peut-être qu'au début, hein, des difficultés en Centrafrique, puisque finalement le Séléka, c'est une fédération d'au moins 5 organisations. Alors, dans la lutte militaire, il y a l'ennemi, la fédération, elle tient. Mais après, pour
partage
l'exercice
du
pouvoir, bon.
C'est autre chose.
Alors que, en fait, le Premier ministre, il appartenait déjà à l'opposition.
Tout à fait.
Donc en place, il y avait plus que ce Bozizé qui gênait un petit peu. Mais visiblement, si le groupe le plus proche de Joto Dia a pris le pouvoir, c'est parce qu'il voulait s'imposer par rapport aux autres factions du Séléka. Donc il y aura sans doute des lendemains difficiles aussi en Centrafrique.
C'est possible.
Par contre, on va voir comment Fabius, lequel il va soutenir.
Allez, quelques mots du retour de Musharraf au Pakistan. Surprise.
Musharraf, sa surprise. Oui, enfin, c'est-à-dire qu'il faut, pour retourner, qu'il ait le soutien quand même d'une part de l'establishment,
oui,
militaire, hein,
oui,
car sa tête va être mise à prix.
C'est déjà fait, hein.
Voilà, bien sûr.
Talibans y ont promis la mort, quoi.
Oui, tout à fait. Alors, on parle officiellement de talibans. Donc, bon, que sa tête soit mise à prix par les talibans, on s'entend. Mais au sein même, effectivement, de l'establishment militaire, et il peut craindre, effectivement, qu'on fomente donc un attentat contre lui.
Oui, il est sans doute suicidaire, et puis il n'a pas envie de mourir dans son lit. Bah,
voilà.
Ça le regarde.
Peut-être de ça aussi.
C'est un cas personnel.
Voilà. On parlait de Chypre aussi, non?
Ah, Chypre.
Ah oui, très belle île. L'île d'Aphrodite.
On commence à comprendre un peu mieux. Alors, ils ont pris des mesures vachement sympathiques, mais on n'est pas sûr qu'ils vont les tenir. Hein. Finalement, ils taxeront pas les petits comptes en banque, ils taxeront les gros. 30% de prélèvement au-delà de 100 000 euros. Oh, en Russie, ça gueule. Hein. Il faut dire que les Russes, ils avaient beaucoup investi, puisqu'il y a 25 milliards d'euros de Russes dans les 70 milliards des banques chypriotes. Et du coup, eh bien, ça pose de sérieux problèmes pour l'avenir bancaire de l'île. Alors, bon, ce qu'on n'a pas dit dès le début beaucoup, mais qu'on est bien obligé de reconnaître, c'est que c'était un paradis fiscal organisé qui vivait largement au-dessus de ses moyens, qui bénéficiait de dépôts avec des taux d'intérêt qu'ils n'étaient pas en mesure de servir. Donc, c'est le problème de la pyramide. Hein. On emprunte un nouveau pour pouvoir payer les intérêts, qui avait des taux d'imposition très bas. Mais des paradis fiscaux, il y en a d'autres. Hein. Le Luxembourg, l'Angleterre, le Monaco, on va en trouver une ribambelle, donc je ne sais pas si ils vont tous subir le même sort que Chypre à moyen ou long terme. Pour le moment, on nous dit que c'est un cas d'espèce.
Oui. Singapour, oui. En dehors de l'Union Européenne, oui, il y en a aussi.
Il y en a tout plein du côté, dans la zone asiatique.
Du moins, enfin, chaque pays, chaque grande puissance a un peu sa zone offshore. Hein. Alors, oui. Pour les intérêts russes, c'était à Chypre. Oui. Pour les intérêts britanniques, c'est l'île de Man et c'est Jersey. Mm-hmm. Pour notre élite financière, c'est plutôt Luxembourg, la Suisse.
Et Monaco. Dépend,
et Monaco, ouais. Mais enfin, Monaco, ils ne peuvent pas être résidents.
Sans marin, peut-être,
Français.
Je ne sais pas. Ouais.
Enfin, bref, chaque zone offshore est spécialisée. Hein. Les îles Caïmans, les Bahamas, c'est pour les Américains.
Ça, c'est américain.
Voilà. Et bon, là, effectivement, la deuxième mouture hein, qui a été pondue donc cette nuit semble plus, comment dirais-je,
sympathique.
Démocratique, sympathique, entre guillemets, sauf pour les Russes. Mais ça reste quand même un précédent. Ça reste, nous, on n'est pas concernés. Je pense, on ne fait pas partie des gens qui ont des comme ça des dépôts de plus de 100 000 euros, etc. Mais dans l'absolu, ça reste quand même une mesure qui peut être assimilée à une mesure d'extorsion. Ni plus ni moins. Enfin, je donne juste cet exemple-là. L'Irlande, le sauvetage de l'Irlande, on s'est bien gardé de mettre en place donc la taxation sur les dépôts des comptes irlandais. Pour la bonne et simple raison que l'Irlande sert aussi de plateforme pour l'investissement des multinationales américaines en Europe. Et il aurait été sûr qu'on aurait eu une mesure de rétorsion. C'était pas possible que du moins cette politique voit le jour. Là, c'est vraiment à bon escient qu'on a mis en place cette mesure parce qu'on sait que les déposants sont principalement russes, ukrainiens, géorgiens, hongrois, roumains, etc. Mais principalement
serbes aussi, j'ai entendu.
Serbes aussi, oui, bien sûr. Chypre servait effectivement de zone offshore pour tous les Balkans et toute l'Europe de l'Est et pour le Caucase, hein, pour les fortunes créées dans ces pays-là. Donc, il est clair que, mis à part les Britanniques, puisque c'était l'ancienne colonie britannique, il y a aussi pas mal de Britanniques fortunés qui avaient investi sur l'île, mais principalement c'est quand même les intérêts russes. Hein. On est vraiment dans la réelle politique. On sait très bien que les principaux perdants de cet accord vont être les Russes. Alors, comment vont réagir les Russes? Comment va réagir le pouvoir? Comment vont réagir les oligarques? Vont-ils laisser se dépouiller à hauteur de 30, 40% même pour certains qui n'auraient pas souscrit quelque assurance sur leurs dépôts? Ça reste à voir. D'autant que la Russie est en train de renégocier donc le prêt qu'elle avait octroyé il y a 2 ans à Chypre à hauteur de 2,5 milliards de dollars. Et la Russie aussi levier et Gazprom l'avait proposé de prendre une concession gazières sur les eaux maritimes chypriotes qui apparemment sont riches hein, en gaz naturel, en concession donc de l'effacement d'une partie de la dette. Donc le jeu n'est pas terminé hein, et il sera terminé le jour effectivement déjà où les banques vont pouvoir rouvrir d'un et où les déposants vont pouvoir récupérer leur argent. Pour l'instant, on parle d'ouverture hypothétique des banques mardi, donc 10 jours de fermeture, sans pour autant que les déposants aient possibilité de retirer leur argent.
Aujourd'hui, c'est fête nationale, c'est la journée de la liberté. Alors, ils ne pouvaient pas ouvrir.
Bien sûr. Les billetteries fonctionnent, c'est le seul moyen.
Elles sont à sec, elles ont été à sec.
Oui, à 100 euros par jour, oui.
Oui, des choses comme ça.
Bien entendu, pour survivre, ça va très bien. Mais le problème reste entier, parce que c'est une plateforme offshore comme Chypre marchait parce que l'argent rentrait, repartait. Dès lors où les déposants vont pas pouvoir sortir leur argent, je vois pas qui va mettre son argent. Vous voyez ce que je veux dire? Le premier souci, déjà, l'argent va pas pouvoir
sortir.
C'est
pas le perdre.
Donc, voilà, c'est pas le perdre. Donc, personne va être assez imbécile pour venir déposer ô combien, effectivement, les taux sont intéressants pour venir déposer son argent. Or, on risque d'avoir une contraction de l'activité économique très forte à Chypre et on va avoir donc les mêmes symptômes d'ici quelques mois, quelques années, à savoir, de nouveau, peut-être un plan pour Chypre qui n'aura pas les moyens donc d'honorer ses obligations vis-à-vis de l'Union européenne.
C'est sûr que l'île va vers une crise économique. Hein. Alors, quant à Poutine, dans un premier temps, il a dit, ben, puisque c'est ça, je vais conseiller à tous les financiers et russes de retirer leurs avoirs en euros un peu partout. Et puis, dans un deuxième, d'acheter du dollar ou autre chose. Et ce qui, évidemment, provoquerait une crise en France et sûrement une remontée des taux d'intérêt. Puis, dans un deuxième temps, il a réfléchi un peu. Il s'est dit, oui, mais l'Europe, c'est quand même mon premier gros client commercial. Donc, si je fais ça, ça va me retomber sur la gueule sous forme d'augmentation. Alors, et finalement, il tempère un peu.
Quoi. Oui, alors, les Russes ont surtout, là, en ce moment, une dent contre les Allemands parce qu'ils sont pas non plus dupes. Ouais. Ils voient bien que c'est un plan allemand avant tout, hein, qui a été avalisé par le FMI, par la Commission européenne et la Banque centrale européenne. Mmh. Et donc c'est vrai que l'Allemagne c'est un partenaire non négligeable de la Russie, mais s'il devait y avoir des rétorsions, si jamais ce plan voit le jour et si comme on le dit, les Russes risquent de perdre de 3 à 5 milliards de dollars dans l'histoire. Il est fort à parier que de manière sournoise, on risque d'avoir quelques mesures commerciales assez déplaisantes à l'encontre des intérêts allemands en Russie. Hein.
Voilà. Italie, Robert, tu voulais dire un mot ?
Quelques mots simplement pour dire que Bersani... qui est sorti vainqueur des élections, mais sans obtenir une majorité absolue, sauf à l'Assemblée. Bersani, donc centre-gauche, parti démocratique, a été chargé, comme ça avait été annoncé la semaine dernière, a été chargé de mettre sur pied un gouvernement. Ça va pas être facile, parce que au Sénat, il a pas la majorité absolue, donc il faut que quelques d'autres appuient ce qu'il va proposer comme construction gouvernementale. Alors, il a un petit espoir, c'est que il a réussi à obtenir le vote de plusieurs sénateurs qui avaient été élus sur les listes griots, donc du M5S, ceux qui disaient plus de politique, on ne va fricoter avec aucun des partis politiques. Il avait quand même obtenu que quelques-uns vote pour le candidat qu'il avait présenté à la présidence du Sénat. Il se trouvait que c'était un juge, donc c'était en sorte, c'était pas un homme politique. En plus, c'est un juge qui s'était révélé très courageux dans la bataille contre la mafia. Donc, finalement, des gens de l'équipe Agrio ont appuyé cette élection, ce qui fait qu'il y a bien un contrôle par le Parti démocratique des deux assemblées, mais il faudra qu'il puisse renouveler la même opération au Sénat, c'est-à-dire qu'il arrive à convaincre quelques sénateurs élus donc sous l'étiquette de Griot et du M5S, 5 étoiles, d'appuyer sa proposition. Mais pour ça, il faudra qu'il mette un minimum de politique, qu'il mette ces fameux techniciens dont déjà l'actuel président prétend avoir un gouvernement ne fait que de techniciens, mais des techniciens qui sont aussi, sinon pire, politiques que les politiciens. Parce que
technocrate. Qui...
Bon, voilà. Donc, ça démarre cette semaine. Napolitano, qui est très âgé, il voudrait bien que ce gouvernement soit construit avant de mourir ou de quitter la présidence italienne. Mais bon, on va voir. Ouais. Mais ça confirme effectivement que Bersani n'a pas apporté au peuple victime de la crise la réponse que ce peuple attendait en Italie. Et donc il va finalement bricoler, quoi. Il va bricoler.
On connaît ça.
Jusqu'à ce que ça aille à une prochaine crise en Italie, comme en Espagne, et comme peut-être en France demain. On en parlera tout à l'heure.
Voilà, avant de faire une pause musicale, Michel, tu avais un autre sujet.
Non, mais juste ajouter sur l'Italie qu'aujourd'hui, Moody's, apparemment, il y a des rumeurs qui courent, s'apprêtent donc à dégrader donc la dette souveraine italienne.
Ah oui.
Donc ça va rajouter en plus de la crise à la crise.
On va mettre un peu de tourmente du côté de l'Italie. Sans le commenter, simplement se réjouir, parce que on est aussi pour la paix, que les annonces faites par Abdullah Öcalan, prisonnier des Turcs parce que leader du PKK, avait annoncé la semaine dernière, à savoir que cessez-le-feu, et au-delà du cessez-le-feu, trouver un accord complet, à la fois de désarmement, de trouver pour les militants armés une solution, pour les autres militants, enfin, et faire un parti politique comme les autres au sein de la Turquie. Et il l'a donc confirmé la semaine dernière, et ça va se faire. Enfin, ça va se faire. C'est sans doute pas demain la veille que l'accord avec le gouvernement turc sera conclu, mais...
Je vois que la mort de Beredovski ne vous a pas vraiment attristé.
Non. Il avait anticipé ce qui se passe à Chypre, tu vois. Il était déjà fauché, on dit qu'il était ruiné, alors un peu plus, un peu moins.
Beresovski, c'est un sombre personnage, proche de Poutine avant de s'en éloigner, donc en bisbille avec les autres oligarques, notamment avec Abramovitch. Oui. Les services secrets russes, de toute vraisemblance, ont essayé plus d'une fois de mettre fin à ses jours, donc il y a une forme de suspicion qui règne derrière sa mort inexpliquée. Alors certains parlent de suicide, mais pour l'instant, moi, j'ai pas plus d'éléments que ça. Tu aurais dit que c'est un sombre personnage, faut pas l'oublier, c'est un oligarque, qui, là aussi, a acquis sa fortune sur la spoliation après les privatisations qui ont été mises en place sous l'ère Yeltsin.
Mais donc, on va pas pleurer, non. Il faisait des procès à tout le monde, et puis il a dépensé beaucoup d'argent comme ça dans des trucs complètement...
Oui, et je pense que quelque part aussi, à un moment ou à un autre, il a servi les intérêts britanniques. C'est la raison pour laquelle il y a une demande d'extradition de longue date de Moscou qui avait été envoyée à Londres.
Sa dernière lettre, c'était une supplique à Poutine. Il souhaitait rentrer en Russie.
Pour mourir sur ses terres.
Et c'était d'une autocritique en disant j'ai fait beaucoup de conneries. Bon. Et puis,
c'était trop tard.
C'est fini. Mais finalement...
Il n'en fera plus. Voilà. Allez, pause musicale avec Remo Gary, le maréchal des Chanlogis. Il sera sur scène à Lyon, à la salle des Rancy, ce vendredi 29.
J'habite un costume trois pièces au ras de chaussée. Je tends la main pour la pièce quand vient la marée chaussée. Je circule, mes pieds, c'est mon véhicule. Où êtes-vous? J'ai pas de toit. Domiciliez-moi. Quand
il pleut, j'ai l'eau potable, j'ai mes deux genoux pour table, j'ai l'EDF à la bougie. Je suis le maréchal des sans-logis. J'ai écrit sur ma pancarte tout, même un igloo, tout, même un château de cartes, un repère comme les loups, ou une vieille bagnole, même une auberge espagnole. Où êtes-vous? J'ai pas de toit, domiciliez-moi. Même un abri d'infortune, je n'espère pas la lune, je ne crois pas à l'astrologie. Je suis le maréchal des sans-logis. Je rêve d'une étoile de tente, d'un toit de tissu, au moins un ciel à deux pentes avec ma plaque dessus. Dehors est en décembre, juste un petit trou de chambre. Où êtes-vous? J'ai pas de toit, domiciliez-moi.
Y'a pas de foyer. Voilà, Rémo Gary, le maréchal des sans-logis. Vous écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info du lundi, avec Robert, Michel et Jean-Pierre dans les studios ce soir pour évoquer maintenant l'actualité nationale. Alors on a le choix entre le Front de Gauche, la CGT, la manif anti-mariage gay. Qu'est-ce que vous préférez traiter? Et d'autres sujets d'ailleurs.
Je te suis là.
D'abord, un petit retour sur la semaine dernière. Où s'est tenu le congrès 50e du titre de la CGT, qui n'avait comme importance non pas on va dire une lutte pour entre des lignes d'application syndicale différentes, mais simplement prendre note du départ de Bernard Thibault et son remplacement par Thierry Leparon. Il y a eu précédant ceci, il y a eu une petite bataille bureaucratique parce que Bernard Thibault, lui, souhaitait que ce soit une femme, qui effectivement est une femme qui joue un rôle important à la CGT, qui soit la nouvelle secrétaire générale. Mais en fait, il y a une majorité de fédérations qui avait refusé lors d'une consultation. Oui, elle est démocratique, avait refusé cette proposition et on s'est replié sur Thierry Leparon, qui est pas visiblement très connu. Il n'est pas sorti des luttes des années 95-2000 comme l'a été Thibault. Mais finalement, Thibault, qu'est-ce qu'il en a fait de son prestige de lutteur de l'époque? Je ne sais pas. Les gens disent qu'il a su que une période difficile, déjà maintenir la boutique, ce qui est peut-être important, je ne sais pas. Qu'il a volontairement voulu participer donc à la recréation de l'intersyndicale, mais au plan national, hein, c'est-à-dire avec renouer avec la CFDT notamment, ce qui n'était pas une mince affaire. Toute chose qui d'ailleurs aujourd'hui vole en éclats, on en parlera d'ailleurs sur la bataille autour de l'accord national interprofessionnel. Donc voilà, alors on va attendre. Il y a un long entretien. Il s'est pas mal exprimé pendant ce week-end. Thierry Leparon, il a pas dit des choses nouvelles. Il a pas, bon, c'est pas attendre. Et tant mieux qu'il fasse de la démagogie en arrivant au pouvoir. Mais je sais pas si les autres syndicats ont une appréciation du personnage.
Avançons, parce que ça c'est l'actualité de la semaine dernière. Ce week-end, il y avait le Front de Gauche avec son congrès. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Alors bien sûr, il y a les 17 salopards Mélenchon, mais il n'y a quand même pas que ça dans ce congrès. Si.
Oui, en fait, il y a eu plusieurs, bon, ils ont discuté de ce qui est intéressant, mais ce qui pour l'instant n'est pas une création, on va dire, politique impliquant une mobilisation, c'est ce qu'on appelait l'arc méditerranéen. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on s'aperçoit bien que, au travers de la crise, enfin, on reprend le mot tel que le système la développe, eh bien, les pays frappés, c'est les pays de l'Europe du Sud. Et que là, il y a peut-être aussi quelque chose à faire au plan de la lutte contre la crise. Au parti de gauche, ils ont acté ça. Mais ça avait déjà été fait. Je me souviens même que pendant la campagne présidentielle, quand Mélenchon avait fait le deuxième grand meeting. Après celui de Paris, hein, qui était le meeting de Marseille au Prado, il avait parlé de cette Méditerranée métissée qui devait servir un peu de socle à la sixième République, c'est-à-dire partir de valeurs nouvelles et qu'elles soient en plus européennes, etc. Bon, tout ça c'était déjà dans les papiers du parti de gauche. Sinon, effectivement, il a développé la thèse de lui et le parti, hein, de l'euro des peuples opposé à l'euro Merkel. Il aime bien faire ce genre de jeu de mots, mais effectivement, c'est assez bien vu, quoi. À l'euro Merkel, on préfère l'euro des peuples, a-t-il dit. Plus compliqué. Enfin, ils ont aussi rappelé ce qu'était un peu la philosophie globale du parti de gauche, c'est-à-dire l'écosocialisme. Hein, c'était l'écosocialisme. Ça voulait dire que on n'est plus dans la gauche traditionnelle qui pensait surtout à faire du social. On adjoint la composante aussi importante que le social, qui est l'écologie. Donc c'est la définition même de la stratégie du parti de gauche, écosocialisme. Écosocialisme. Alors naturellement, là où c'est un problème majeur pour la période qui vient, c'est à propos des municipales. Alors Mélenchon est allé tout de suite, il y a déjà plusieurs semaines, sur une position très dure, c'est-à-dire des listes Front de Gauche autonomes partout. Puis après, partout... C'est pas possible, mais faudrait au moins que les 60 plus grandes villes de France puissent mettre sur pied des listes Front de Gauche. Alors, ça fait grincer un peu du côté du Parti communiste, parce que le Parti communiste, lui, il est beaucoup plus pragmatique. Il fixe pas comme ça. Il voit les choses au cas par cas. Il voit surtout les endroits où déjà, dans les précédentes élections, il a perdu des positions. Et que là, il a envie de ne pas en perdre davantage. Et donc, ça veut dire que, dans certains cas, composer avec des socialistes, à défaut, on a bien compris, le parti de gauche et Mélenchon, il voudrait empêcher que même en coulisses, les communistes mènent une négociation globale, nationale, avec le PS. Alors ça...
Il aura du mal. Hein.
Ça va être difficile.
Mais ça peut se faire, mais discrètement. Mais je veux dire, cette négociation, elle aura sûrement lieu quand même, tu vois. Mais il faudra surtout pas qu'elle soit éventée, quoi.
Mélenchon va avoir une politique de rupture.
Oui.
On le traite de populiste, mais il fait sienne, effectivement. Justement, cette attaque, il se déclare populiste dans le sens où il parle au peuple, et sa préoccupation, c'est le peuple, et il va continuer un peu cette stratégie. On sent bien que le parti communiste est suiviste par rapport à cette ligne directrice, et dans le même temps, il est pragmatique dès que des élections s'approchent. Alors, ça va être difficile dans le temps. Dans le même temps, bon, c'est une dans le climat un peu d'hostilité générale par rapport au parti de gouvernement. La stratégie de Mélenchon, elle peut être payante à plus ou moins long terme. Hein. Ça joue pour lui, hein. Effectivement, quand on voit les 8 ou 9 mois de gouvernement socialiste qu'on a, il y a globalement pas grand-chose qui change, hein, que ce soit en politique sociale, économique ou communautaire, par rapport à ce qu'on a connu sous Sarkozy. Donc, prenez la rupture, c'est un pari risqué, mais c'est un pari qui peut marcher s'il y a une prise de conscience, hein, de nos concitoyens, quoi.
Mais dans ce débat, au cours justement des 3 jours de congrès, la ligne dure de Mélenchon, hein, on schématise un peu comme ça, mais bon, c'est dans la réalité ce qui se passe, a été battue en brèche. Et la motion, le texte a dû être adouci sur ce point-là de la de l'inconditionnalité de faire partout des listes front de gauche. Enfin, sur le ton donné, hein, attention, ne vous embarquez pas avec les socialistes comme ça. Mais finalement, une ouverture quand même en disant, ben, il y aura quand même du cas par cas. Et puis comme disaient certains délégués du parti de gauche, ils disaient, bon, la tête est peut-être pourrie, mais on connaît des socialistes sincères et qui pensent comme nous, qui sont pour que ce gouvernement fasse autre chose que ce qu'il fait, tu vois. Donc, bon, c'est personnalité. Voilà, alors, sinon, ils n'ont pas été réélus tout de suite, mais dans les jours qui viennent, il y aura réélection des 2 présidents. C'est une coprésidence, hein, le parti de gauche, Mélenchon, et Martine Billard, qui, elle, est venue des Verts. Elle a une longue carrière chez les écologistes et les Verts, et qui sera plus derrière des gens qui savent ce qu'ils font aussi. Hein, ça ne faut pas dire, hein, c'est pas... Évidemment, c'est Mélenchon. Et puis alors, comme il a toujours des formules très 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 dures là, comme la manière dont
percutante.
Et alors évidemment, du coup, il capte tout. Alors les journalistes s'en donnent à cœur joie et lui, il les bouscule. Alors les journalistes s'en remettent une couche et lui aussi.
C'est dit là aussi, c'est une posture de com, hein, puisque il n'aurait pas fait d'esclandre, entre guillemets esclandre. Est-ce qu'on aurait parlé du congrès?
C'est
toute la problématique. Alors, que faut-il penser effectivement des 17 salopards et notamment de ceux qui ne pensent pas en français? Voilà, donc moi j'ai été très très étonné de la polémique. Il a été traité quasiment d'antisémite, j'ai pas compris.
Si, il y a eu d'embrouille. Bah, c'est Harlem Désir qui a foutu le bordel. Puisque lui, il a parlé de 17 salopards, dont Moscovici, et Harlem Désir s'est payé le culot, un peu absurde, de dire « il a dit ça parce qu'il est juif ». Moscovici, ce que personne ne savait, et Mélenchon lui-même a dit oui. Ah, mais je savais pas.
Mais, non, mais il a surtout dit effectivement de Moscovici, maintenant on prend Moscovici pour Moscovici, il ne pense pas en français, et c'est certain qu'il pense plus en accord avec le cenacle des finances internationales qu'en français. Et juste pour mémoire, rappeler que donc Pierre Moscovici, en 2003-2004, alors chargé des relations internationales du Parti Socialiste, était allé aux États-Unis rassurer les Américains que si jamais les socialistes revenaient au pouvoir, il serait beaucoup plus compréhensif que l'était notre président de l'époque, Jacques Chirac, qui avait dit niette à l'offensive commune en Irak. S'il y a une chose qu'aujourd'hui l'histoire doit reconnaître, c'est qu'il a eu raison, Jacques Chirac, en 2003, de ne pas donner donc son aval à cette aventure irakienne. Et juste pour mémoire aussi, que là aussi, je ne pense pas que Moscovici, en 2003, ait pensé en français. Hein. Il n'était pas en accord donc avec la majorité de nos concitoyens, parce que là aussi n'oublions pas, la très grande majorité des Français étaient d'accord donc avec la prise de position de notre président de la République à cette époque-là.
Alors pour finir sur l'anecdote, il faut quand même ajouter que Mélenchon s'est empressé de dire que si jamais Moscovici était attaqué en tant que juif, il serait le premier à le défendre.
Quoi. Oui, ça va sans dire.
Un mot en une phrase pour signaler que les Verts, qui étaient en Conseil fédéral, ont finalement fait un pas vers l'accord national interprofessionnel, c'est-à-dire qu'ils ont dit, bon, il est insuffisant, il faudra l'amender. On a déjà déposé 40 amendements. Or, on sait très bien que, par exemple, le MEDEF ne veut pas. C'est à prendre ou à laisser tel quel. Et le gouvernement est un peu d'accord avec le MEDEF pour dire la cause qui a été signée entre les deux parties, ça n'est pas amendable. Donc, les Verts ont pris une position qui va les amener à nouveau à devoir s'humilier publiquement.
Et un mot de la manif anti-mariage gay. Donc, la manif s'est élargie et toute la droite s'y précipite. Hein. On a pu voir Copé, on a pu voir Raffarin, Madame Boutin, quant à elle, on a eu le souffle coupé. Donc, 340 000 vraisemblablement selon la police, mais ils avaient peut-être beaucoup bu. Ils ont vu double, voire triple, puisqu'ils parlent d'un million de participants. C'est une manif qui tend, qui se répète et qui tend à se colorer à droite de plus en plus.
Quoi. Ils ont abusé sur le Van Metz. Hein.
Ah. Voilà, on n'en dira peut-être pas plus. Bon, il y a eu quelques échauffourées. Alors si, on peut dire aussi qu'ils ont eu le soutien du GUND, hein, qui s'était mobilisé pour conquérir les Champs-Élysées, d'où des affrontements avec la police et quelques centaines d'arrestations, enfin quelques horions, bien sûr. Autre sujet intéressant, Goudière, on a Amiens, il serait question éventuellement de constituer une SCOP avec 1175 salariés, bon peut-être pas tous mais presque. C'est pas un projet inintéressant autour d'une proposition de la CGT pour faire du pneu agricole et on attend 2 semaines pour une nouvelle réunion avec la direction et voir si ce projet peut voir le jour.
Oui, ce qui est d'ailleurs là, à propos des SCOP, c'est des échecs actuels du gouvernement Hollande qui ça faisait partie du programme, ça fallait partout pousser en avant des alternatives autour des SCOP, et surtout quand il s'agissait des plans de licenciement et quand il s'agissait des licenciements boursiers, ce qui est un peu le cas chez Goodyear, comme dans d'autres, hein, c'est comme ça va se passer maintenant dans le groupe Arkema qui d'après son patron racheteur Gary Klesch, cet Américain qui en fait vit en Suisse et qui s'occupait pas du tout de ce qu'était la production de chimie lourde, de soude notamment, et qui avait donc racheté Arkema un peu partout dans la région. Et prévision, 5 usines qui vont être en grande partie démantelées, 2600 salariés au départ, 1300 à l'arrivée. Ça se passera à La Vera, Foss, Saint-Auban, Saint-Fond. Bon, Saint-Fond, donc ici. Et puis Ballan également, c'est dans l'Ain. C'est une usine dans l'Ain. Et tout ça, Montebourg, il doit être sur les rotules. Il n'y arrive plus, je crois. Hein. Il peut plus.
Malgré sa jeunesse, il est fatigué. Voilà, un mot d'une formation quasi-locale, rhodanienne en tout cas. En parcourant le progrès, on vous expliquait samedi que le Conseil Général du Rhône, présidé par autrefois Monsieur Mercier, aujourd'hui sa collègue Madame Schussville, avait décidé d'augmenter les impôts, la part départementale dans les impôts fonciers, donc les propriétaires, en gros, vont en être de 50 euros par an en plus en 2013. Ça devrait rapporter 45 millions d'euros. Bon, le motif, il paraît que c'est les dépenses de solidarité qui grimpent, comme c'est pas possible, l'État qui se désengage, enfin vous voyez. Vous prenez le même journal aujourd'hui lundi, il y a aussi un article sur le Conseil Général du Rhône, et là qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que le Conseil Général du Rhône cherche à renégocier ses emprunts d'Exia, et qu'il en a déjà renégocié les 3/5 l'année dernière, et que ça coûtait 37 millions d'euros. De là à déduire que, sans vouloir nous le dire, l'augmentation, elle n'est pas destinée à aider les plus pauvres des Rhodaniens, mais à financer les turpitudes d'Exia, il n'y a qu'un pas que je n'hésiterai pas trop à franchir. Voilà.
Dans le social, il y avait aussi, tout près d'ici, là, Bosch, hein, Bosch, l'équipementier qui faisait du voltaïque à Vénissieux et qui a décidé que bah, ça suffisait. Alors qu'il y a un an ou deux, les syndicats ont négocié, une augmentation du temps de travail sans augmentation de salaire, ou peut-être même avec des réductions, enfin, ces fameux trucs que les patrons imposaient. Pour dire, si vous voulez que ça continue, signez ça. Ils signent, et deux ans après, on leur dit, ça va être fini. 200 personnes à Vénissieux.
Ouais, enfin, le dossier est un peu compliqué, parce qu'il y a ça, puis il y a le fait que l'État est revenu sur les subventions fiscales, et on sait que les industriels adorent ça pour le voltaïque, et puis que les Chinois leur font une concurrence au point de vue prix qu'ils peuvent pas soutenir. Quoi. Enfin, bon, tout ça mélangé, mais n'empêche que ce que tu dis est vrai pour ce qui est des travailleurs qui se sont engagés. On dit un mot de Sarkozy et de ses ennuis avec le juge Gentil, qui n'est pas si gentil que ça avec lui.
Je retiens ce qui est surtout intéressant et que c'est pas assez dit, c'est que Gentil ne travaille pas tout seul. Et la décision, avant qu'il l'exprime à Sarkozy, ça a été décidé à trois juges d'instruction. Mais évidemment, on fait porter le chapeau à Gentil tout seul.
Guénot s'en est pris à lui, elle a un peu quasiment insulté, donc maintenant on est dans une bataille de plainte contre plainte, et on va voir de ce qui sort de tout ça d'ici quelques temps.
On a notre ancien président qui voulait justement supprimer cette fonction de juge d'instruction, qui se retrouve devant un juge d'instruction, c'est assez cocasse, et qui l'accuse de partialité, de parti pris. Maintenant, là, on va voir les suites un peu. Le meilleur reste à venir, je suppose.
Oui, comme il a dit, mais je n'en resterai pas là. Ça veut dire que si je reviens au pouvoir, vous allez sauter, les juges. Vous allez voir ce que vous allez voir.
Ça peut être interprété aussi comme une sorte de.
Alors c'est comme ça que le juge Gentil l'a pris comme ça.
Oui, ouais. Ça peut, oui. Un juge.
Voilà, on arrive à la fin de ce Canet Info. Une brève encore avant quelques annonces culturelles.
Vas-y,
Rémo Gary, j'ai dit vendredi. Jeudi et vendredi et samedi plutôt, c'est Jacques Legrand qui, au Cœur et Trente, donnera son nouveau spectacle, Hispaniola. On l'écoute en fond sonore dans une de ses compositions récentes. Samedi et dimanche. 30 et 31, samedi à 20h, dimanche à 18h, Jean-Baptiste Vegeau sera à Agent d'Arts, 4 rue de Belfort, présente son nouveau spectacle Enfin seul, et comme vraisemblablement nous ne serons pas là lundi prochain, un jour férié, pour un coup, le Canet Info du lundi se mettra en congé ce jour férié. La semaine suivante, donc, Claudine Lebec, le mardi 2 et le mercredi 3, donnera son spectacle Danny Bar au Nancy pour la dernière fois. Claudine Lebec dans son personnage d'Odette. Et puis, jeudi, le 4 et jusqu'au 14 avril au Carré 30, la compagnie Utopia donne un nouveau spectacle, Glissement sémantique dans l'aile nord. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai oublié de vous dire? Ben oui, toujours au théâtre Sous le Caillou, 23 rue d'Austerlitz, dans le 4e, Huguette et son facteur, d'Eugène Giuliani, avec Annie-Claude Sauton et Eugenio Giuliani. Quoi d'autre? Beaucoup de spectacles dans le cadre du Printemps des Poètes. Du tango le mardi 26 mars et demain à l'ENM. Oui, c'est à Villeurbanne, bien sûr. Un concert tango à la salle Antoine Duhamel. Et puis, on va en parler beaucoup plus longuement dans l'émission suivante. La semaine prochaine, carte blanche à Parlons-en, ce sera à l'Espace 44 dans le premier, avec quatre spectacles, Ma guerre d'Algérie, Des matins bruns aux heures noires, c'était un 17 octobre, et Les moines de Tibérine. Donc parlons-en de 2 ou 7. Mais vous en saurez plus si vous restez avec nous à l'antenne. Et jusqu'au 27 mars, c'est la fin du 29e cinéma ibérique latino-américain. Voilà, merci à nos auditeurs et puis rendez-vous dans une quinzaine pour un prochain Canuafo. Bonsoir.
Oh, qu'il est où là-dedans? Oh, qu'il est où, mon frère? Ils ont laissé traîner un peu de viande et du poison. Les chiens sont endormis, ils ne se réveilleront pas. Ils ont forcé la porte et sont sortis des cases. La nuit était partout et la lune éclairait les sentiers. Ils sont allés jusqu'à la mer avec des vivres et des prières. Ils ont parlé au vent et aux étoiles, puis sont montés dans la pirogue et sont partis dans l'océan. Ils sont partis au large en priant fort et sans regret. Ils ont chanté au rythme des pagaies.